le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 3 mai. Julie Pietri, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, y aurait-il de la fébrilité dans la majorité présidentielle? Même si les socialistes, les communistes n'ont pas encore fait alliance ce matin avec les insoumis et les écologistes, la Macronie attaque ce possible rassemblement de la gauche. Vous l'entendrez dans ce journal après les autres titres, Julie.
Le prix des œufs va-t-il encore augmenter avec la guerre en Ukraine, la hausse du prix des céréales, des carburants? Certains agriculteurs disent ne plus s'en sortir, il faut répercuter davantage sur le consommateur. Elle a joué un rôle majeur dans la découverte de la trisomie 21. Marthe Gauthier, un temps oubliée par la science au profit de ses collègues masculins, est morte. Son histoire à la fin de ce journal. Et nous irons également dans le sud de la France où les chenilles processionnaires reviennent avec les beaux jours. Très urticantes, elles viennent d'être classées nuisibles pour la santé.
Les invités du 7-9 ce matin à 7h50, Léa.
Une enquête passionnante sur un sujet méconnu, l'indemnisation des victimes du terrorisme. Combien vaut une vie? Combien vaut la perte d'un enfant? Comment réparer l'irréparable? C'est ce que raconte le grand reporter de l'Obs, Mathieu Delahousse, dans le Prix de nos larmes. Il sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera tout à l'heure, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le haut commissaire au plan président du MoDem, maire de Pau, François Bayrou. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Une nouvelle longue journée et soirée et début de nuit de négociations, mais toujours pas de nouvel accord à gauche en vue des législatives. Socialistes et communistes ont discuté avec les insoumis et Europe Écologie Les Verts sur la bannière commune, sur le projet, sur les circonscriptions. Au Parti Socialiste, c'est Pierre Jouvet qui mène les discussions.
On doit avancer. Notre objectif, c'est d'arriver à construire une coalition politique qui permette d'avoir une majorité le 19 juin au soir. Notre objectif, il est là. Le 19 juin au soir, au deuxième tour des élections législatives, ce qu'on veut, c'est qu'une majorité politique de gauche et écologiste soit gagnante dans ce pays pour les Français. Donc, on prend le temps de construire le chemin de ce rassemblement. Nous souhaitons que l'ensemble des forces de gauche et écologistes, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le Parti Socialiste, soient présents. C'est la condition de la victoire.
Le socialiste Pierre Jouvet au micro de Julie Drouin. Nous avançons doucement mais sûrement, c'est ce que répètent régulièrement les négociateurs depuis plusieurs jours. Même si l'accord final n'est pas encore là, la majorité présidentielle n'attend pas et attaque déjà ce rapprochement, cette alliance avec la France insoumise. Ce serait pour plusieurs cadres de la Macronie une trahison pour les socialistes et pour les écologistes aussi. Abandon de leurs idées pour gagner quelques places à l'Assemblée. Simon Le Baron.
La carpe, ce n'est pas le lapin, tacle Emmanuel Macron. Le député Bruno Ketel, venu lui aussi du PS, moque à son tour un mariage contre nature et fait la liste de ses griefs.
Les renoncements de la gauche du gouvernement, une pseudo-crypto-gauche révolutionnaire de bobo parisien et la nécessité pour ces mêmes personnes de maintenir un précaré et une rente aussi qui est celle du financement public des partis politiques. Tout cela dans la joie et la bonne humeur pour partager le petit gâteau qui reste.
Des attaques à la hauteur de l'inquiétude des macronistes? Ils ont la trouille, répètent insoumis, écologistes et socialistes, à qui les proches d'Emmanuel Macron répondent en dépeignant un président serein et qui verrait même dans tout cela une opportunité. Rejoignez-nous, lance dans le journal L'Opinion les ministres Brigitte Bourguignon, Agnès Pannier-Runacher et Emmanuel Wargon, espérant séduire la gauche social-démocrate et pro-européenne. Voilà le sens de cette phase de décantation théorisée par le chef de l'État réélu et la raison pour laquelle il n'est pas pressé de lancer ses troupes dans la campagne des législatives. Quitte à en crisper plus d'un parmi ses députés qui n'en peuvent plus d'attendre le feu vert du chef pendant que les adversaires se mettent en ordre de bataille, le chef, il s'en fout, tranche l'un de ses amis qui le décrit confiant, persuadé que les Français lui donneront quoi qu'il arrive une majorité.
Et à gauche, les négociations reprennent ce matin.
Il est 7h04, c'était une menace depuis plusieurs mois. La junte au pouvoir au Mali va rompre ses accords de défense avec la France.
Et aussi avec ses partenaires européens, annonce officielle à la télévision malienne hier soir, alors que les relations entre Bamako et ses anciens alliés dans la lutte contre les djihadistes ne cessent de se dégrader. Le Mali considère considère que la France viole régulièrement son espace aérien. Inquiétude aussi sur de possibles répercussions sur le retrait en cours des soldats de l'opération Barkhane. Ce serait un séisme aux États-Unis si cela se confirme, selon le journal Politico qui s'appuie sur une fuite de documents. La Cour suprême américaine s'apprête à annuler le droit à l'avortement, plus précisément l'arrêt historique Roe versus Wade de 1973, ce qui voudrait dire que chaque État redeviendrait libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Nous serons à Washington dans le journal de 8 heures. En Ukraine, la ville portuaire d'Odessa au sud frappée à nouveau par les Russes. Hier, un tir de missile sur un immeuble a fait au moins un mort, un adolescent de 15 ans selon la mairie. Les Ukrainiens craignent qu'Odessa sur la mer Noire, stratégique, soit un objectif de Moscou. Pour les Américains, qui font état d'informations très crédibles, les Russes veulent annexer les territoires séparatistes de Donetsk et Lugansk, dans le Donbass à l'est, en organisant dès ce mois de mai des référendums à Kramatorsk, capitale du Donbass. Les trois quarts des habitants ont déjà quitté la ville. C'est là que les Russes ont bombardé une gare le 8 avril dernier, tuant 57 personnes. Reportage de Farida Noir et Fabien Gosset dans l'hôpital numéro 1 de Kramatorsk, où les blessés ont été pris en charge.
Asseyez-vous, je n'ai pas beaucoup de temps.
Il vient déjà d'opérer deux patients. Victor Krigli est le chef du département de chirurgie à l'hôpital principal de Kramatorsk. Ici sont soignés les civils, les militaires y reçoivent les premiers soins.
On nous amène surtout des blessés par balle à la poitrine, à l'abdomen.
Aujourd'hui, l'hôpital fonctionne en mode dégradé.
On était environ 402, maintenant il ne reste plus que 160 soignants.
Les laborantins sont partis, des chirurgiens aussi. Il sait que l'hôpital est une cible.
Bien sûr, j'ai peur. On sait très bien ce qui s'est passé à Mariupol, à Tchernikiv, à Kharkiv.
Mais il a décidé de rester.
Peut-être parce que c'est mon travail. Moi et mes collègues, nous avons décidé d'accomplir notre devoir jusqu'à la fin. Dans les villes voisines, il n'y a plus du tout de chirurgien.
Dans une chambre, Tamara, une vieille femme, elle a été touchée par un éclat d'obus. Elle n'est qu'éloge pour ses médecins qui restent malgré le danger.
Les médecins sont exceptionnels ici. Chirurgiens, infirmiers, un collectif parfait.
C'est Andrei qui la soigne. Lui aussi ne quittera l'hôpital que si Kramatorsk est acculé.
Les gens souffrent, alors on reste ici. On essaie d'aider tout le monde. Qui va les aider, si ce n'est pas nous?
Le plan d'évacuation de l'hôpital est déjà prévu avec des bus. Les soignants se sont fait un serment. Ils ne laisseront aucun patient derrière eux.
Pour tenter de faire pression sur la Russie, la Commission européenne doit proposer un sixième paquet de sanctions aujourd'hui, avec un calendrier pour la fin des importations de pétrole russe. De nouvelles banques russes pourraient aussi sortir du système de transactions SWIFT. Augmentation du coût des carburants, de l'énergie, des céréales liées en partie à la guerre en Ukraine. Les éleveurs français de poules s'inquiètent et certains agriculteurs veulent désormais augmenter encore leur prix de vente pour s'en sortir. Les œufs, comme d'autres produits alimentaires, sont en ce moment plus compliqué à trouver dans certains supermarchés. Le reportage à Grivillé dans la Somme de Corentin Bémol.
Vas-y, démarre.
Il n'a jamais connu ça. Jérôme Tassard est éleveur depuis 20 ans. Sur son exploitation, 78 000 poules à nourrir. Et c'est tout le problème.
60% du coût de production, c'est l'aliment. Suite à la guerre en Ukraine, le cours des céréales a carrément explosé. L'aliment que l'on achète est passé de 240 euros la tonne il y a un an et demi à 400 euros pour le mois de mai 2022.
S'ajoutent d'autres coûts comme l'électricité pour faire tourner les machines. Pour lui, une seule solution, augmenter le prix des œufs.
Pour nous, ça représente un surcoût colossal qui doit être impérativement répercuté au niveau du consommateur aujourd'hui. Il faut augmenter l'œuf entre 3 et 4 centimes pour un œuf comme le mien, type standard, et au moins 10 à 15 centimes sur un œuf bio.
Le ministre de l'Agriculture incite donc les acteurs de l'agroalimentaire à renégocier les prix avec la grande distribution. Une question de vie ou de mort.
Si on n'arrive pas à passer les hausses aux consommateurs, à la distribution, on va être obligé d'arrêter parce que le prix de l'aliment est insurmontable avec un prix de l'œuf comme il l'était il y a quelques semaines.
Jérôme Tassard exprime aussi d'autres inquiétudes, la sécheresse ou encore la grippe aviaire. Et si la Somme est épargnée pour l'instant, 3 millions de poules ont déjà été abattues en France depuis le début de l'année.
Chez nos voisins en Italie, le gouvernement a décidé de débloquer 14 milliards d'euros d'aide supplémentaire pour amortir la hausse des prix de l'énergie et, je cite, « défendre le pouvoir d'achat des familles, des plus faibles et la capacité de production des entreprises ».
Il est 7h09, elles sont présentes dans les parcs, dans les jardins et sur des chemins de randonnée.
Les chenilles processionnaires reviennent avec le printemps, comme chaque année. Ces petites bestioles dont les poils provoquent en cas de contact des démangeaisons, des cloques et qui viennent d'être classées nuisibles pour la santé, d'activité sont aussi un danger pour les animaux. Le reportage dans les Alpes-Maritimes d'Alexis Arad.
Une rue banale, des pins au sol, des aiguilles, et puis...
Des chenilles avec des pics, et des genres de cheveux, quoi.
Des chenilles processionnaires, reconnaissables donc à leur poil, à la file indienne, autre indice dans les arbres.
Tous les arbres couverts de blanc, de ces choses blanches, là.
Ce n'est pas la première rencontre pour Marie-Claude.
Il y avait des chenilles processionnaires par terre, et là j'ai tout appris sur elles. Et je sais que c'est pas très marrant.
Pas marrant, c'est un euphémisme. Une ingestion de ces chenilles pour les animaux peut provoquer de graves gonflements potentiellement mortels. Tout le monde n'est pas aussi inquiet comme Charline.
J'ai vu dans un article là. Mais bon, je sais pas ce que c'est. Moi, je le mets pas dans l'herbe le mien, donc je m'inquiète pas. Je pense que ça se voit de suite s'il y a quelque chose.
Un peu plus loin, un parc pas de pins en vue, on y retrouve Maryse. Sa présence ici n'est pas un hasard. Les coupables, encore les chenilles.
Ah oui, je sais ce que c'est. C'est très dangereux pour les chiens. Mais heureusement, il n'y en a pas dans le parc. Je viens que là.
De quoi s'éloigner un peu de cette espèce classée depuis la semaine dernière comme nuisible pour la santé humaine.
Alexis Arad. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais on lui doit l'une des plus grandes découvertes médicales du XXe siècle, la découverte du chromosome responsable de la trisomie 21. Marthe Gauthier est morte samedi, elle avait 96 ans et a été un temps oubliée par la science. C'est un homme, l'un de ses collègues, qui a reçu les honneurs à l'époque, à Gérard.
C'est en 1956 que Marthe Gauthier rejoint l'équipe du professeur Turpin à l'hôpital Trousseau à Paris. Elle étudie le cas de ses enfants atteints d'un retard mental et de mal formation, et c'est grâce à la technique des cultures cellulaires qu'elle est la seule à maîtriser à l'époque en France qu'elle perce le mystère de la trisomie 21. Sur l'un de ses enfants, la jeune chercheuse compte un chromosome de trop, 46 plus 1. Mais à l'époque, elle n'a pas le bon microscope pour photographier ses résultats. L'un de ses collègues, Jérôme Lejeune, propose alors de s'en charger. Marthe Gauthier accepte, mais elle ne verra jamais ses photos. Quelques mois plus tard, le généticien présente ses travaux tout seul lors d'un congrès à Montréal, et dans le compte-rendu de l'Académie des sciences, le nom de Lejeune est cité en premier, celui de Marthe Gauthier en deuxième et en plus mal orthographié. L'an dernier, devant les caméras du magazine Complément d'enquête, elle confiait toute sa déception.
C'est toujours fatigant d'essayer de démontrer quelque chose et de ne pas y arriver. Même Turpin ne m'a jamais remercié beaucoup de tout ce que j'ai fait, donc j'ai été plutôt dégoûtée. Dégoûtée. Voilà.
La reconnaissance arrivera plus tard. En 2014, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale rappelle le rôle décisif de Marthe Gauthier et regrette que son nom ne soit pas systématiquement associé à la découverte de la trisomie 21.
500 bébés naissent chaque année avec cette anomalie chromosomique. La peur bleue d'une mère de famille il y a quelques jours près de Tarbes. Après sa journée de travail, elle gare sa voiture pour aller chercher son fils au centre aéré de Séméac. Laisse à bord sa petite fille de 2 ans, laisse la clé sur le contact. Dans ce laps de temps, le véhicule est dérobé. Il sera retrouvé avec l'enfant en bonne santé à 40 km de là. Le voleur l'a finalement abandonné devant une gendarmerie.
Merci Julie Pietri. Le zoom dans 3 minutes aujourd'hui sur le chemsex, le danger de la dépendance.